En route pour l'enchantement. Rendez-vous au pied des marches du petit palais. Une cascade de verre nous y attend. Remontons le courant pour franchir les grilles monumentales de ce temple du goût et nous perdre dans son jardin luxuriant. Nous y serons charmés par les sculptures bijoux de Jean-Michel Houtaniel. Intrigués, nous nous laisserons guider par cette invitation au rêve pour découvrir dans les entrailles du musée un univers de couleurs, de lumière et de poésie. Partons flâner les yeux fermés avec un regard pour l'art. Poétiser, réenchanter le monde. Tels sont les objectifs que poursuit Jean-Michel Houtaniel lorsqu'il crée. Jean-Michel Houtaniel, 57 ans, né en 1964 à Saint-Étienne. Une ville alors triste, noire, marquée par le charbon. Le contexte est difficile. Fils d'institutrice, il éprouve un grand intérêt pour l'art dès son plus jeune âge. À 6 ans, il ressent un choc, dit-il, un éblouissement devant une œuvre de Robert Morris, devant la liberté de l'artiste qui pouvait faire tout ce qu'il voulait. Dès lors, il veut devenir artiste à son tour. Le musée d'art moderne de Saint-Étienne est très actif. Il offre à voir des collections très riches et fournit un travail pédagogique remarquable. Jean-Michel Houtaniel raconte. Dans cette ville communiste, les enfants des écoles laïques allaient au musée le mercredi. Enfant, ce musée était pour moi une fenêtre sur l'espoir, un espace où l'on pouvait être différent. 1981. Il a 17 ans. Il se rend à Paris pour préparer l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. 1981, abolition de la peine de mort. 1982, dépénalisation de l'homosexualité. L'école de Cergy, expérimentale, s'inscrit elle aussi dans cette vision des années 80. Une vision constructive, positive. J'étais jeune, je débutais mes études. Je me sentais libre, tout explosait. Ses profs, Christian Boltanski, qui le pousse dans la voie de la singularité, Annette Messager, Sophie Kahl, Colette Garot, qui enseigne l'art du jardin, Jean-Claude Silbermann, peintre, poète, surréaliste, proche d'André Breton. 1981, c'est aussi l'année de son premier voyage à New York. Dessins de Kissaring dans le métro, des mesures des musées et des collections. 7 ans plus tard, 1988, il a 23 ans, tout juste diplômé, il expose déjà au Musée d'art moderne de Paris. L'année suivante, exposition personnelle à la FIAC, il rencontre les galeristes. Brève incursion à Naples, il découvre les volcans, les îles éoliennes, la pierre ponce, l'obsidienne, et le soufre. Il en parle ainsi dans son livre « Why Glass, pourquoi le verre ?» Soufre, souffrer, souffrir, souffroir, souffreteux, sulfureux, soufre, souffrer, soufre, sublimé, soufre natif, foutre divin, je ne me souviens plus très bien pourquoi, mais en 1989, j'ai voulu voir le soufre natif sortir du volcan. Il en vient à sculpter le soufre. Il l'explore pendant 10 ans. 1989, il est à Berlin pour 1 an. Le mur tombe. L'expérience est incroyable. À l'époque, chaque pays avait une forte identité artistique. Il voyage. Il pense déjà son travail de manière globale, au-delà des frontières, au-delà de l'art contemporain occidental, qu'il définit comme, je le cite, très masculin, blanc, hétérosexuel et anglo-saxon à l'époque. 1996, il entre à l'Académie de France à Rome. En Italie, j'ai accepté le beau. Il y a presque un an, Christophe Le Ribaud, conservateur du patrimoine, alors directeur du Petit Palais, demande à l'artiste s'il est prêt à relever un défi. Investir en 8 mois l'édifice dans son entier. Offrir un signe d'ouverture, de poésie, de joie en cette période sombre et troublée. Offrir un cadeau au public. L'exposition est d'ailleurs gratuite, n'hésitez pas. Jean-Michel Autoniel signe. Ce sera l'occasion de montrer un corpus d'œuvres jamais vu en France. Dans un déploiement spectaculaire. Une nouvelle rétrospective. 70 œuvres autour de la théorie des reflets. L'exposition s'intitule « Le théorème de Narcisse ». Il nous invite en effet à déambuler sur les traces du mythe de Narcisse. Ce jeune homme qui, comme nous le raconte Ovide dans les Métamorphoses, découvrit son reflet, sa beauté fatale, dans l'eau pure d'une source jamais troublée par les bergers ou les bêtes sauvages. Une source limpide aux eaux brillantes et argentées, dans laquelle son destin tragique s'accomplit. Épris de sa propre image, il se laissa mourir de langueur et se transforma en fleur. Ici, Narcisse est aussi un homme fleur qui se reflète lui-même à l'infini. Mais comme le souligne Bachelard, le narcissisme n'est pas toujours névrosant. Et c'est le cas ici. Cet homme fleur, en se reflétant lui-même, reflète le monde autour de lui. L'exposition joue sur tous ces types de reflets physiques, métaphoriques. Les œuvres se reflètent elles-mêmes comme des narcisses. Les œuvres reflètent l'architecture, le péristyle, les plafonds, les guirlandes d'or. Nous, visiteurs, narcisses à notre tour, nous reflétons nous-mêmes. Nous sommes des narcisses de l'enfance, de la première joie de se voir dans un miroir. Nous sommes des narcisses contemplatifs d'une réalité démultipliée à l'infini. Le temps est suspendu. Les contingences d'ici-bas oubliées. Nous sommes absorbés. Nous nous perdons dans cet univers singulier qui gravera à jamais notre souvenir. Réenchanter l'époque et le lieu. Tel est l'objectif de Jean-Michel Autoniel. Plongeons-nous dans cet univers d'illusions, d'invitations aux rêves, de contemplation. Nous sommes au pied du Petit Palais, cet édifice conçu par l'architecte Charles Giraud, entre Seine et Champs-Élysées, à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. Paris est alors une ville spectacle. Une ville qui rayonne aux yeux du monde. La cité du luxe et de l'art de vivre. En 1900, le Petit Palais reçoit les arts français. Il est destiné à durer, contrairement à d'autres constructions édifiées pour l'exposition universelle, au destin éphémère. Il est promis à la ville de Paris pour en faire son musée des beaux-arts, ce qu'il est encore aujourd'hui. C'est un véritable bijou, un palais de lumière. L'entrée est monumentale. La grille en fer forgé, un morceau de bravoure, un chef-d'œuvre absolu, au décor floral d'inspiration Art Nouveau. Charles Giraud fait 34 dessins pour en être satisfait. Sur les marches, Jean-Michel Autoniel dépose aujourd'hui quelques 2100 briques en verre miroité, des briques qui épousent parfaitement la forme des marches, des briques soufflées en Inde à Firozabad, d'un bleu turquoise, d'une couleur proche de l'aigle marine, cette pierre si évocatrice des étendues d'eau. L'exécution est virtuose. De jour comme de nuit, la rivière bleue dévale les marches comme une cascade, fraîche, claire. Cette cascade de gemmes, cette surface miroitante, nous invite à mieux regarder la grille en ferronnerie d'un or solaire, dessinée par Charles Giraud. Elle nous invite à un voyage initiatique. Elle nous invite à remonter le courant pour franchir ce passage vers la connaissance, le savoir, le beau, le merveilleux, le bonheur. Montons les marches, franchissons la grille, entrons. Nous pénétrons dans la vaste rotonde d'accueil gorgée de lumière. Par les grandes baies, nous apercevons le jardin, un lotus d'or. Voici les prémices d'un étrange jardin d'Éden où se lovent 26 sculptures de l'artiste. Il a des allures de jardin merveilleux, comme s'il était sous vitrine, protégé par un globe. Cette mise à distance participe à son charme et à son mystère. Lorsque je me suis engagée dans le projet de cette exposition, je me suis demandé quel était le chef-d'œuvre du Petit Palais, sa Mona Lisa. C'était son architecture et son jardin exotique, véritable Éden au cœur de Paris, autour duquel le monument a été construit. Ce coin de nature est la clé de lecture du lieu, le centre à partir duquel tout irradie. Dixit Jean-Michel Autoniel. Laissons-nous envoûter. Nous déambulons maintenant à l'abri de la colonnade en demi-cercle, au milieu des acanthes, euphorbes, yuccas, palmiers, bananiers. Des colliers précieux, des colliers dorés à la feuille d'or, sont suspendus aux arbres venus d'Orient, comme les aralias du Japon. Ils ont été confectionnés spécialement sur mesure, pour respecter la fragilité de ces arbres. Les ors de ces colliers répondent aux ors des jardins et de l'architecture. Cette oasis de verdure prend des allures exotiques et enchanteresses. Dans la niche droite du péristyle, un autre collier, cette fois gigantesque, monumental. Il s'agit d'une sculpture bijou de 2,80 m de haut. Il semble suspendu, il s'élève et flotte, comme si par magie, notre rat du cou aux perles d'or avait changé d'échelle et se retrouvait maintenu au plafond par un fil invisible. Son tombant, ses courbes semblent tellement naturelles. L'objet est aérien. Il est constitué de perles d'aluminium, dorées à la feuille d'or, de taille légèrement différente, enfilées sur une structure métallique absolument invisible. L'objet est aérien. Il effleure l'espace, comme mis en scène par l'architecture, à laquelle il rend hommage. Trois marches de marbre lui offrent comme un piédestal. La porte vitrée, située derrière lui, monumentale, semble lui servir de cadre. Une porte vitrée animée de volutes en ferronnerie, couleur acier. Une porte vitrée qui nous renvoie l'image du jardin et du lotus d'or placé en son cœur. Une porte vitrée où se reflète notre image au sein de ce jardin des Hespérides. Eh oui, nous sommes plongés dans la mythologie. Nous sommes comme Hercule devant les pommes d'or. Nous ne les cueillerons pas. Nous poursuivrons notre flânerie dans ce péristyle, dans ce jardin à la beauté fascinante, dans cet univers féerique ponctué de six nœuds miroirs. De grands nœuds autoportés, faits de boucles entremêlées, de perles enfilées comme sur des colliers. Des perles toujours en aluminium, mais cette fois couvertes d'une feuille d'inox poli. Des perles parfaitement réfléchissantes, miroitantes. Approchons-nous, envie de toucher. Envie de toucher pour savoir à quel point leur surface est lisse, froide peut-être. Envie de toucher pour suivre ces boucles, ces entrelacs sans fin qui nous entraînent dans leurs reflets infinis. Nous nous perdons. Puis, nous nous y découvrons nous-mêmes, tels des narcisses. Nous découvrons dans ce reflet une image méconnue de nous-mêmes, amis du monde qui nous entoure. Très vite, ces perles, ces nœuds nous invitent à redécouvrir les détails de cette architecture merveilleuse. de cet édifice conçu par Charles Giraud à l'orée du XXe siècle. Nous quittons donc du regard ces colliers entremêlés, ces nœuds miroirs de boules argentées, pour contempler les fresques de Paul Baudouin qui animent le plafond et figurent les saisons, les mois et les heures du jour et de la nuit. Pour contempler les guirlandes de feuilles d'or suspendues aux colonnes depuis plus d'un siècle. Pour contempler la végétation luxuriante du jardin. Pour admirer encore les bassins aux tesselles de mosaïques turquoises et violettes, réalisés par l'atelier Gian Domenico Facina pour l'ouverture du musée en 1900. Ces bassins évocateurs des jardins orientaux qui ont peut-être intéressé, intrigué, fasciné, inquiété, ces visiteurs à l'époque, à l'aube du XXe siècle. Un écrin où se reflètent aujourd'hui, avec volupté, d'autres sculptures bijoux de Jean-Michel Houtoniel. À regret, nous quittons ce jardin des plaisirs, comme saupoudré d'or par l'artiste, pour poursuivre notre cheminement, pour descendre dans les entrailles du musée. Nous pénétrons dans la vaste salle Giraud, 30 mètres de long. Nous y retrouvons un monde féerique, un monde aquatique, l'eau est omniprésente dans cette exposition, un monde de reflets, de lumière, où une multitude d'œuvres en verre coloré se déploient. Tout l'espace de la pièce est occupé. Nous nous arrêtons, la lumière est tamisée, et pourtant nous sommes littéralement éblouis. Éblouis par ces œuvres qui brillent de mille feux. L'une, monumentale, posée à même le sol, la grande rivière. D'autres, de dimensions plus restreintes, accrochées au mur, precious stone walls, précieux murs de pierre. D'autres enfin, une vingtaine, aériennes, suspendues, tourbillonnantes, des nœuds sauvages. Ces œuvres de verre nous invitent dans l'univers enchanté de la grotte de Narcisse. Cette fois, l'eau est calme. C'est un lac qui nous plonge dans la contemplation, un lac à la clarté d'un miroir, comme cette source évoquée par Ovid dans les Métamorphoses. Un miroir entre deux mondes? Un lac de briques d'un bleu fiorori. Un lac de 2000 briques de verre, des mêmes bleus que ceux de la rivière qui dévalent les marches à l'entrée du petit palais. D'un bleu que l'on connaît depuis la Grèce jusqu'à Firouzabad, du bleu du centre de notre berceau indo-européen, de cette culture qui nous relie, nous dit Jean-Michel Houtoniel. Sur cette étendue d'eau, sur cette étendue de briques de verre bleu, se reflètent des nœuds. Des nœuds sauvages, comme les qualifie l'artiste. Des nœuds de perles qui nous renvoient à celles du jardin que nous venons de quitter. Des perles enfilées sur des structures métalliques invisibles, là encore, mais des perles de verre. Des perles de verre soufflées une à une. Des perles de verre d'une fragilité extrême. Des perles de verre irrégulières, miroitantes, aux couleurs brillantes, chatoyantes, parfois acidulées. Ces nœuds sont suspendus à des hauteurs différentes. L'un est posé sur la surface de l'eau. Tous semblent se refléter. Tous sont distincts, certains complexes, abstraits, d'autres plus évocateurs de formes connues, comme celui qui ressemble à un tourbillon. Ou encore celui-là, constitué de deux colliers de perles dont l'un nous fait songer à un cœur. Il s'intitule d'ailleurs « Mon cœur serré ». Ils sont tous nés d'une aquarelle. Inspirés des nœuds borroméens, ces nœuds qui, au sens mathématique, sont constitués de trois cercles qui ne peuvent être détachés les uns des autres, même en les déformant. Ces nœuds qui ont été repris par la psychanalyse et notamment par Lacan. Lacan identifie ce nœud ternaire, ce nœud à trois ronds, aux trois registres essentiels de la réalité humaine, à savoir le symbolique, l'imaginaire et le réel. Ces nœuds, qui sont ici le fruit du travail d'une équipe, réunie autour de l'artiste à la Solfatara, à Montreuil, depuis 2018. Ce studio porte le nom d'un volcan, près de Naples. Rien d'étonnant. Ce volcan était une étape obligée du Grand Tour au XIXe siècle. La Solfatara, c'était aussi le nom de la porte des enfers pour les Grecs et les Romains. La Solfatara de Montreuil, quant à elle, lieu de gestation des œuvres de Jean-Michel Autoniel, réunit les équipes de modélisation, serrurier, verrier, équipe de production. Quand j'ai une idée en tête, je fais tout pour la concrétiser, dit-il. Je veux faire partie du processus, être proche des souffleurs de verre, des ingénieurs, des gens qui travaillent sur leurs ordinateurs. On travaille véritablement ensemble. Enfin, ces nœuds sont tous issus de la rencontre et de la collaboration du plasticien avec le mathématicien mexicain Aubin Arroyo. Il faut remonter en 2015. Aubin Arroyo cherche à mettre en équation les reflets infinis. Il développe des images virtuelles issues de ses modèles mathématiques. Il s'agit de colliers de perles noires. Par hasard, sur Internet, il découvre l'œuvre de Jean-Michel Autoniel. Il reste alors stupéfait. Stupéfait de la proximité entre le fruit de son travail et celui de l'artiste. Deux personnes, au bout du monde, sans se connaître, produisent des images d'un étonnant parallèle. Il entre en contact avec Autoniel, qui fait le voyage. Un long dialogue, une relation forte, une collaboration s'installe. L'artiste offre une sculpture, le nœud infini, à l'Université nationale autonome de Mexico, où elle est exposée de façon permanente aux côtés des recherches du mathématicien. L'artiste éditera également un livre intitulé « Nudos Salvajes », nœuds sauvages, pour raconter l'histoire de cette rencontre, de ce dialogue entre l'univers sensible et présent et l'infini mathématique. Le mythe de Narcisse prend ici une dimension mathématique et cosmique. Les nœuds sauvages du mathématicien sont devenus des nœuds de perles miroitées. Cette résonance entre l'art et les mathématiques, cette convergence des regards, s'exprime pleinement ici au Petit Palais, puisque nous admirons aujourd'hui le travail en volume réalisé par Autoniel à partir des calculs d'Aubin Arroyo. J'ai créé une trentaine d'œuvres à base de ces calculs mathématiques. Je suis devenu son miroir, il est devenu mon Narcisse, nous dit Jean-Michel Autoniel. Il ajoute, Aubin Arroyo a fait exploser en moi le collier de la déesse Indra. Nous revoilà dans le mythe. Cette déesse indienne à qui nous devons les étoiles. Cette déesse d'une grande beauté dont on raconte que son collier s'est brisé et dont les perles, en s'échappant dans l'univers, ont créé les étoiles. Les colliers de Jean-Michel Autoniel sont peut-être comme des mandalas. Et s'ils ne s'en mêlent pas et ne se reflètent pas indéfiniment, il n'en reste pas moins que ces œuvres bien réelles nous emmènent dans un monde imaginaire au moyen d'une image symbolique, réunissant ainsi les trois registres de la réalité humaine mis en évidence par Lacan. Poursuivons notre flânerie. Nous déambulons maintenant autour de l'étendue d'eau paisible, figurée par ces briques bleues, disposées avec une régularité extrême en rectangles concentriques. Elles brillent, elles aussi. Ces briques de verre, éclairées par de petits spots, nous renvoient la lumière. Elles illuminent l'espace. Elles nous captivent par leurs nuances infinies de bleu. Elles évoquent la source limpide aux eaux brillantes et argentées, décrite par Ovide, dans laquelle s'inscrit le destin de Narcisse. Nous sommes dans l'espace souterrain du musée. Elles évoquent donc aussi, peut-être, les eaux du Styx, puisque le jeune homme restait pris de son reflet au-delà de la mort. Nous sommes happés par la magie des reflets opalescents, fascinés par la légèreté des nœuds suspendus, enchantés par le foisonnement des couleurs, nous nous évadons dans un monde merveilleux. Nos sensations de l'enfance se réveillent. Nous sommes réenchantés. Au fil de notre déambulation, nous découvrons au mur des œuvres de briques et de lumière, car Jean-Michel Autoniel semble aussi savoir sculpter la lumière. Ce sont des œuvres d'une simplicité apparente extrême, des bas-reliefs bicolores, precious stone walls, précieux murs de pierre, des associations bicolores de briques de verre, disposées là encore avec une régularité extrême, pour constituer des parallélépipèdes de relativement petite taille. Autoniel les définit ainsi. Ils sont comme des partitions dessinées. Les variations de briques colorées sont composées comme une polyphonie de petits pans de murs précieux, accrochés aux cimaises du musée. Ils ont tous la même trame. Ils sont tous le fruit de cette période érémitique du confinement 2020, le fruit d'une pratique quasi méditative. Chaque jour, l'artiste produit la même forme, mais il exprime une émotion différente. Ils sont aussi comme un retour aux fondamentaux, au musée d'art moderne de Saint-Étienne, à la formation de l'artiste auprès de Donald Judd ou de Carl André. Par ce jeu de briques de verre, je me reconnectais à mes premiers amours en art, le minimalisme et l'art conceptuel. Bien que travesti par les couleurs et la chatoyante matière du verre indien, chaque œuvre est rigoureusement unique, dessinée et composée selon une pratique méditative, précise, quasiment spirituelle, imposée par le temps d'isolement et la vie d'ermite menée pendant le confinement. C'est ainsi que l'artiste évoque ce travail. Sur chacun de ces bas-reliefs, sur ces monolithes réguliers, parallélépipédiques, un point de lumière. Et les reflets colorés du verre de couleur se mettent à danser sur le mur. Ici, des formes fluides, vert tendre et bleu turquoise se répondent. Elles nous évoquent peut-être la silhouette et la couleur de deux pans. Là, les couleurs sont chaudes, comme des filets tissés avec une extrême finesse, dans les tons de jaune et orange. Nous pourrions rester à les contempler un à un, des heures durant, essayant d'imaginer ce que pourraient représenter ces formes tracées avec une extrême légèreté par ces briques de verre colorées, touchées par la lumière, effleurées par la lumière. À la rigueur minimale de ces monolithes, conçus au fil des jours du confinement et témoins des émotions de l'artiste, à leurs lignes épurées, à leurs formes zen, répond la richesse baroque de leurs couleurs vibrantes. Ambre, bleu turquoise, jaune safran. Le minimalisme radical est resté mon premier amour, dit-il, mais j'y ai ajouté la sensualité. Ces bas-reliefs sont une allusion, une citation des Stonewall Riots, ces manifestations spontanées qui eurent lieu en 1969 à New York, à Greenwich Village, suite à des violences policières, et restent aujourd'hui associées à l'émergence du mouvement LGBT et à sa lutte contre les autorités oppressantes. Ces œuvres ponctuent les murs, comme le ferait un chemin de croix dans une église. Sommes-nous dans un lieu sacré ? Sommes-nous dans un monde merveilleux, mythique ? Sommes-nous dans un univers mathématique, cosmique ? Toutes ces dimensions interagissent dans l'art de Jean-Michel Autoniel. Nous sommes ici à la croisée de ces mondes. Nous sommes aussi à la croisée des sens. La forme s'étire. La matière se laisse caresser. Elle s'ouvre, elle se gorge d'air. Tout est maîtrisé par leurs lèvres. Tout est rythmé par leur souffle. 10 heures du matin, les corps reposent. Voici comment l'artiste décrit le travail du verre et celui des verriers. L'analogie avec l'acte d'amour est évidente. L'étreinte amoureuse conduit à la création du beau, Jean-Michel Letoniel vit avec intensité ce processus d'élaboration. Et il souhaite nous inviter, nous regardeurs, dans une dimension sensuelle nouvelle. J'avais envie de faire des œuvres qui stimulent les sens autres que la vue. L'envie de lécher, par exemple. Le verre était comme un liquide qui s'épanchait. Ce verre nous convie à voyager avec l'artiste, à voyager dans le temps et dans l'espace. J'aime travailler avec les artisans d'excellence. Je veux être là quand les verriers soufflent, ça me donne des idées nouvelles. Chaque pièce écrit ainsi l'histoire d'une rencontre d'un savoir-faire. D'œuvre en œuvre, une géographie personnelle se dessine, s'enrichit, dit-il. Il est donc successivement à Murano en Italie, à Monterrey au Mexique, à Sapporo au Japon et plus récemment en Inde, en Uttar Pradesh à Firouzabad, non loin du Taj Mahal. Laissons-nous guider. Pendant 8 ans, il a rêvé d'Inde, cette Inde où les piles de briques s'entassent sur les bords des routes, sur les parcelles de terrain déjà achetées. Ces piles de briques s'amoncellent comme autant de promesses de maisons futures, des piles de rêves et d'espoir. Ces briques, symbole universel de solidité. Pendant 8 ans, l'artiste essaie d'entrer en relation avec les petits ateliers artisanaux de verrerie. Ils ne reçoivent pas d'invités. La barrière de la langue, l'incompréhension. En fin 2010, une porte s'ouvre, un atelier à Firouzabad. S'assurer que l'atelier ne fait pas travailler les enfants. Et l'épopée commence, les routes difficiles, pas d'hôtel. Avec son ami et verrier suisse Matteo Gonnet, ils sont hébergés au commissariat de police. Là, en Inde, à Firouzabad, on souffle le verre comme il y a 2000 ans. Les cannes sont primitives, il faut plus de souffle. Le métier est beau et dur, il requiert une grande force physique. Il faut résister à la chaleur du verre et à celle du pays. Les verriers sont les gardiens des secrets du savoir-faire. Le geste. L'artisan est concentré sur la réalisation de la pièce. Les automatismes font leur œuvre. Le soufflage nécessite une coordination exemplaire où l'hésitation n'a pas de place. Le verrier est centré sur le travail de sa matière. Il est en cohérence avec son histoire, au cours de laquelle les recettes se sont transmises dans le secret de l'atelier, sans maudire à l'extérieur, pour en garantir pérennité et exclusivité. Toute opération est irréversible. Chaque étape constitue un point de non-retour. Créer le dialogue, gagner la confiance, Matteo Gonnet prend la canne, il souffle pour montrer ce qu'ils avaient en tête, créer des briques miroitées servant de modules aux œuvres d'art de Jean-Michel Letoniel. Le geste est intime. Avec ce travail, nous étions dans une grande communion. Une collaboration extraordinaire est née il y a maintenant 10 ans. Aujourd'hui, au Petit Palais, sont réunies 10 000 briques de verre, 10 000 souffles d'homme, comme le dit poétiquement Jean-Michel Letoniel. J'aime que l'histoire du pays dans lequel je travaille nourrisse mon inspiration. Je n'y vais pas seulement pour fabriquer des choses. J'y vais en espérant être surpris par la culture du pays. Découvrir une autre façon de penser, une autre philosophie, des concepts différents, comme le beau et le merveilleux. Les concepts évoluent selon les cultures, ils ne sont pas fixes. C'est important de garder à l'esprit que rien n'est jamais sûr. Dixit Jean-Michel Letoniel. L'Inde l'a ému. L'Inde l'a ébranlé. L'Inde a ébranlé tout ce qu'il savait de l'art de travailler le verre. Il se confie. L'Inde m'a poussé au monumental. En Inde, on abat des montagnes. Ce voyage a été le déclencheur pour affirmer l'importance du merveilleux dans mon travail, dit-il. Ainsi, ces briques de verre, semblables à des lingots d'or, allient le fastueux et le brut, allient radicalité et flamboyance. Ces briques de verre abritent des imperfections qui participent à leur beauté. Je cherche la chair du verre, Sa densité et son épaisseur ont une mémoire. Comme sur un corps, une blessure du verre à la sortie du four réapparaîtra toujours. Le caractère lumineux du verre a trait à la vie, à notre côté enfantin. Il retient notre regard par cette féerie colorée et lumineuse. Mais le tactile est excité lui aussi, stimulé par les bosselages et les cicatrices. Othoniel est un alchimiste fasciné par la métaphore radicale du verre qui passe de l'opacité et de la granulosité du sable à son aspect final, cristallin, transparent et cassant. Le verre est fragile, réfléchissant. Ces briques de verre coloré, qui sont devenues des modules dans ses sculptures, ces lingots de rêve, comme il les appelle, sont aux antipodes de ces briques mates, solides, entassées au bord des routes en Inde. De ces briques qui ont traversé l'histoire. De ces briques qui sont ce qu'il y a de plus simple au monde. L'œuvre de Jean-Michel Othoniel est un éternel passage du rêve à la réalité. De l'aquarelle, qu'il affectionne tout particulièrement pour ses jeux de transparence, à l'objet, qui est le fruit d'une collaboration intense avec des artisans, des ingénieurs, j'ai petit à petit appris ce qui était faisable et ce qui ne l'était pas. Je connais bien les techniques et les couleurs, je peux me permettre de pousser plus loin leur approche. Ce cheminement dans cette exposition intitulée « Le théorème de Narcisse » vous aura entraîné, je l'espère, dans ce monde chatoyant et cosmique de Jean-Michel Othoniel, où tout n'est que reflet et réverbération. Dans un monde où les modules de perles et de briques, répétés à l'infini, prennent des dimensions architecturales pour rendre hommage à cet édifice conçu à l'orée du XXe siècle. Un édifice conçu pour faire rêver les visiteurs. Un édifice aujourd'hui réenchanté par Jean-Michel Othoniel. Il nous fait rêver, il nous entraîne loin de la réalité, il nous abstrait du monde. Je regarde le passé en essayant de m'inscrire dans la continuité. Il ne s'agit pas de nostalgie, mais j'aime travailler à partir d'un contexte. Jean-Michel Othoniel se nourrit, ici, de l'âme, de l'esprit du lieu, pour nous faire vivre une expérience intimement liée à l'édifice. Une expérience immersive, une expérience qui peut être poétique, cérébrale, conceptuelle. Une expérience qui éveille nos sens et notre imagination. Une expérience qui fait du bien. Une expérience qui restera gravée dans nos mémoires. Narcisse se penche sur son image et découvre le monde qui l'entoure. Le reflet est une forme ouverte, nous dit l'artiste. Le travail de Jean-Michel Othoniel est une forme ouverte sur l'infini. Un travail sur le beau, la beauté soigne, la beauté aide à se retrouver. La beauté nous élève. L'artiste en est convaincu. Je pense que la beauté n'est suspecte que dans notre culture judéo-chrétienne. Au début, elle m'embarrassait, mais je me suis libérée grâce à mes voyages en Asie, où la beauté est une étape vers la spiritualité. Le verre est ici l'acteur principal de cette beauté. Il est l'apaisement, la réconciliation par la forme harmonieuse et les couleurs chatoyantes. Ainsi en parle-t-il. Que dire de plus de cet artiste au parcours hors norme, installé récemment, le 6 octobre dernier, au fauteuil numéro 5 de la section sculpture de l'Académie des Beaux-Arts. La cérémonie fut l'occasion de découvrir son épée, dont il a taillé lui-même la lame dans un seul bloc d'obsidienne et dont le poumon en bronze, un nœud borroméen, ourlé de perles, fut réalisé par son ami et sculpteur Johan Kreten. Le 6 octobre dernier fut également le moment d'écouter son parcours, ses inspirations. Les mots de l'historien de l'art Adrien Goetz résument parfaitement la force de l'œuvre de Jean-Michel Othoniel. Ce sont sur ces mots, qui me semblent être une excellente synthèse de notre flânerie d'aujourd'hui, que nous nous quitterons. Sous une apparence légère, votre œuvre s'empare du monde, des continents, des éléments et des saisons. Ce podcast est la trace orale de notre déambulation de décembre 2021 avec l'association Un regard pour toi qui soutient les non-voyants. Pour nous accompagner, j'ai choisi quelques extraits de l'œuvre du compositeur et académicien Michael Levinas intitulée Invariant. Il s'agit d'une composition pour deux vibraphones et deux marimbas dont le concert eut lieu récemment à la Scala de Paris et fut enregistré par France Musique.